Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Maximilian Oppenheimer, dit Max Ophuls, est un cinéaste français d'origine allemande, né en 1902 et mort en 1957. Il est l'auteur de quelques 20 films. C'est en France qu'il a réalisé La Ronde et Le Plaisir en 1950 et 1952, puis Madame de, d'après le roman de Louise de Villemorin, en 1956. Dans les deux émissions que vous allez suivre, un extrait du journal Parlé et Rendez-vous à 5 heures, Max Ophuls revient sur son film Le Plaisir, tiré de nouvelles de Maupassant. Puis il répond aux questions de Lise et Lina sur le tournage de Madame de, en gare de la Bastille à Paris, sur son écriture de cinéaste et ses rencontres avec les comédiens pour ce film, Madame de. Daniel Darieux, Charles Jourdan et Vittorio De Sica.
Les critiques français et le public ont accueilli différemment Le Plaisir de Max Ophuls. Tous étaient d'accord pour le trouver de qualité, encore que cette qualité soit trop raffinée pour certains. Max Ophuls est là, devant le micro, pour répondre à ses critiques. Et je vais vous demander d'abord, Max Ophuls, quelle est celle de toutes ces critiques qui vous a le plus touché, celle qui a fait mouche en somme, peut-être parce que exacte ?
Il y a une inexactitude que je veux corriger, parce qu'elle m'a touché. On dit que un metteur en scène autrichien ne devrait pas réaliser, on dit ça très souvent dans les critiques, les chefs-d'œuvre de Maupassant. Alors là, il y a une correction à faire, je ne suis pas autrichien. J'ai fait des films de la littérature autrichienne, mais j'ai passé, je crois, en tout 8 mois à Vienne.
En tout.
C'est ça.
Et est-ce indiscret de vous demander de quelle nationalité vous êtes actuellement, enfin, ou toujours?
Française.
Française?
Oui. Je suis naturalisé français depuis, je crois, 15 ans. Et j'ai fait la guerre avec les tirailleurs algériens. Alors, c'était pas très autrichien.
Non, évidemment. Et pensez-vous, du reste, que la nationalité, la province, importe dans une œuvre, que ce soit chez Shakespeare, Maupassant, ou même, enfin, de Daudet?
Je crois que tant qu'une œuvre est locale, c'est une très grande importance. Mais Maupassant, comme Molière ou comme Shakespeare, je
dépasse
crois...
dépasse le cadre de la Normandie et même de la France.
C'est ça.
Et on vous a reproché en général un excès de fignolage, un penchant exagéré pour le détail. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous la trouvez exacte?
Je suis un peu... comme presque toujours envers des critiques sans défense, mais les détails me semblent un élément d'expression dramatique. Alors, je l'observe, il est possible que je me perds même là-dedans, mais je me perds de bon cœur.
Et Maupassant était un inquiet?
C'est ça, il est... vous voulez parler du mouvement de caméra, peut-être?
Non, non, si vous voulez, d'abord. C'est ça? D'abord de cette inquiétude, et puis ensuite, on vous a reproché, je pense, un parti pris de caméra, c'est-à-dire, par exemple, pour la Maison Tellier, que toutes vos vues étaient prises à travers des persiennes couchées. Et pour le public, cela pouvait paraître un peu monotone.
Si on parle d'une caméra qui est un peu... trop en mouvement, comme on dit. C'est parce que le thème de Maupassant, le modèle ou le masque sont des thèmes très neurasthéniques, des thèmes qui m'inquiètent, qui m'impressionnent comme des choses très nerveuses. Alors ma caméra qui exprime ça, ce que je sens, elle est nerveuse.
Elle devient inquiète, elle aussi.
Elle devient inquiète, elle ne s'arrête pas, n'est-ce pas?
Et quelle raison vous a poussé à prendre toute la maison Tellier, tout l'intérieur de la maison Tellier à travers des volets clos?
Le métier des dames. Il s'était enfermé et j'ai voulu montrer comme ils sont comme dans des cages. Alors ça se voit plutôt de l'extérieur mieux que de l'intérieur et j'ai voulu après partir avec eux. J'ai voulu les libérer comme Maupassant les a libérés pendant 24 heures.
Et tout de même, dans votre promenade à travers la Normandie, quand toutes les dames sont dans un char conduit par Jean Gabin, il n'y a pas de gros plan là non plus.
Non, c'est une famille qui se promène, ce sont cinq. Et ils font un bouquet de fleurs, comme Maupassant dit, par exemple. Si je les sépare et je les photographie une fleur après l'autre, ça fait plus bouquet.
Vous avez très réussi à donner une impression de fleur. Et dites-moi, en général, quand vous tournez un film, qu'est-ce que vous cherchez à prouver ou à exprimer? Par exemple, le fait que vous, Max Ophuls, vous ayez presque toujours interprété les œuvres de grands auteurs. Est-ce que vous n'avez pas l'intention un jour de faire un film complètement, d'écrire le scénario, de le tourner et de le réaliser?
Je crois que je préfère d'appartenir à cette groupe de réalisateurs qui ne sont pas écrivains metteurs en scène, qui veulent servir aux autres, aux grands poètes, qui veulent adapter
les grands drames ou les grandes œuvres des autres.
C'est ça.
C'est par modestie ou c'est une nécessité de votre part?
C'est par amour. J'aime tellement les autres que je n'ose pas de faire les miens, les œuvres que moi j'ai écrites.
Mais vous en avez écrit?
Oui.
Et on les verra un jour?
Peut-être.
C'est de nuit dans la vieille gare de la Bastille que Max Ophuls termine son film Madame de avec Charles Boyer, Vittorio De Sica et Daniel Darieux. Nous nous sommes rendus assez nombreux dans cette vieille gare dont les larges verrières donnent accès sur la place. Et on a un peu camouflé, je dois dire, les quais. C'est-à-dire que, par exemple, on a caché le métro avec des vieilles affiches sur lesquelles on peut lire Paris-Londres 75 francs ou Chemin de fer de l'Ouest, Mer de Bretagne 100 francs la place, etc. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait les prix de l'époque, les prix de 1900. Il n'y a d'ailleurs pas que les panneaux qui soient camouflés. Les voyageurs aussi sont étranges ce soir. Toutes les femmes ont les jupes longues, les vestes à basques, les petits chapeaux hauts perchés sur le chignon. Tous les hommes ont le chapeau melon et tous les chefs de gare ont des grosses moustaches. Eh bien, naturellement, c'est l'atmosphère habituelle des Sunlight. Ce sont les gros projecteurs braqués sur un vieux train, lequel train est lui-même complètement transformé. En effet, les fenêtres toutes petites ont été recouvertes de rideaux orange, de jolis petits rideaux orange en dentelle, que l'on a ramené en arrière selon la mode de Naguère. Il y a même quelques fleurs dans certains compartiments. Et les wagons sont un petit peu vétustes, car on a ressorti naturellement les vieux trains. C'est dans cette atmosphère que Max Ophuls va et vient. Max Ophuls, que vous connaissez comme étant le réalisateur d'un grand nombre de films, dont Le Plaisir et La Ronde, un des derniers succès qu'il obtint en France il n'y a pas si longtemps. Eh bien, je vais essayer de trouver Max Ophuls et de l'amener un autre micro pour vous parler de Madame Deux. Tout à l'heure, je cherchais Max Ophuls sur le quai de la gare et Christian Matras m'a dit il ne doit pas être loin car ici, il y a du rail. Il paraît que Max Ophuls est toujours près du rail, près des travelling. Est-ce que dans votre technique, Max Ophuls, il entre justement une particularité concernant les travelling et les mouvements de la caméra?
Je me rends pas compte tellement logiquement ou techniquement tout ce que j'essaie toujours, c'est d'accompagner le mouvement d'une scène, le mouvement d'un acteur, si près que possible, et avec les nerfs de la scène, avec le mouvement intérieur. Et ça m'a amené, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, de mettre une caméra sur des rails.
Par conséquent, en somme, vous traduisez la profondeur du sentiment par le mouvement.
On essaie de faire ça.
Quelle sorte de film aimez-vous? On a l'impression qu'avec tous ceux que l'on a vus de vous, vous aimez surtout le film romantique, sentimental ou psychologique.
J'aime beaucoup ça, oui, sûrement.
Croyez-vous que ce soit là une véritable expression du cinéma?
Je crois que c'est une des expressions du cinéma, sûrement, comme tant d'autres.
Lorsque vous avez décidé de tourner Madame De, vous avez pensé à faire une œuvre romantique de l'œuvre de Louise de Villemorin?
J'ai toujours, surtout pensé de traduire le livre lui-même, que j'aime beaucoup, et dans lequel j'ai trouvé pas seulement les éléments romantiques, mais aussi des éléments de comédie, d'une certaine philosophie, d'une élégance d'une autre époque, beaucoup de contradictions des choses. Je l'ai trouvé très complexe et très complet.
Vous subissez le charme de cette autre époque dont vous parliez tout à l'heure en passant devant le petit kiosque à journaux où il y a le Gaulois, où il y a le Figaro et l'intransigeant des premiers jours. Est-ce que vous pensez que c'est une époque qui doit être plus souvent vue au cinéma?
Je pense, pour moi, elle est assez vue parce que j'ai vis là-dedans. Et...
Dans la ronde, déjà, vous aviez
oui,
reconstitué
oui,
l'époque 1900.
Oui, c'est ça. Et je ne me rends pas compte si elle est en comparaison avec d'autres époques au cinéma, si elle prend une place très spéciale. Mais on m'a très souvent demandé pourquoi mes films se jouent si souvent dans cette époque. Je crois que je la cherche pas, mais que les histoires qui sortent du passé ont justement la beauté du passé, et c'est pour ça que j'y arrive.
Alors, lorsque vous avez rencontré les trois personnages que vous faites tourner dans Madame De, c'était à des occasions extrêmement différentes et qui ont marqué votre vie, je crois, qui ont marqué votre vie cinématographique.
Les trois personnes?
Charles Boyer.
Ah oui. C'était pas très extraordinaire de les rencontrer. On a, par exemple, Charles Boyer, on a envoyé le livre et je l'ai fait demander par télégramme si il voudrait être l'amant ou le mari, que, en tout cas, Madame De serait très contente de l'avoir. Et il a choisi le mari. Et De Sica, je l'ai rencontré, c'est étrange, aussi dans une gare, comme ce soir. Il est justement, il rentrait de Londres et partait pour Rome. Nous nous sommes donné rendez-vous à la gare du Nord. Il a lu le livre, nous avons parlé 5 minutes ensemble et il a dit oui, il veut jouer. C'était une rencontre d'un admirateur. Moi, j'étais l'admirateur de ces films que je trouve des vrais chefs-d'œuvre. Et comme ça, c'était très facile.
Et Daniel Darieux?
Daniel Darieux, je la trouve la meilleure Madame De au monde.
Et vous ne l'aviez jamais rencontrée auparavant?
Si, elle a joué mes deux derniers films.
C'est ce que je voulais vous faire
en
dire.
France.
Elle a joué en effet vos deux
c'est
derniers
ça,
films.
Et,
en France.
Elle était mon actrice préférée.
Et alors, un dernier mot pour résumer l'action de Madame De. Elle met en scène un mari, une épouse, un amant et un accessoire.
Un accessoire.
Les
bijoux. Les bijoux qui changent de place et qui sont porteurs de destin.
Voici le couple célèbre Daniel Darieux et Charles Boyer, à nouveau réunis dans... Madame De, un film de Max Ophüls, adaptation de Marcel Achard, Max Ophüls et Annette Vadement, d'après le célèbre roman de Louise de Villemorin, avec Daniel Darieux, Charles Boyer, Vittorio De Sica, Jean de Bucourt et Mireille Perret. Une histoire qui commence comme un conte de fées. Madame de Danielle Darieux est une jeune femme très élégante, très brillante, très fêtée et qui semble promise à une grande vie sans histoire. Monsieur de Charles Boyer, son mari, est un général encore jeune qui semble promis à une luxueuse et tranquille garnison terrestre. Un jour pourtant, pour régler des dettes qu'elle veut cacher à son mari, la jolie Madame de se rend chez un bijoutier ami pour vendre des boucles d'oreilles formées de deux cœurs en diamant que le général lui a données au lendemain de leur mariage. Madame de vend ses boucles et le soir même, aux Italiens, le théâtre à la mode, feint de les avoir perdues. Scandale, article dans les journaux. Enfin, attendez-moi que le bijoutier s'effraie, se rend auprès de Monsieur de et lui conte la démarche de sa femme. Monsieur de, très peiné de découvrir le mensonge de Madame de, rachète les brillants pour les offrir peu après à une maîtresse étrangère qui regagne son pays. Mais retournée chez elle, la belle étrangère, peu fortunée, vend les bijoux. Et ces bijoux sont rachetés par un riche diplomate, le baron Fausto Donati, Vittorio De Sica, qui les acquiert avant de partir pour Paris. À Paris, le baron rencontre dans les salons Madame de, la courtise, s'en éprend, la trouble, la séduit, et l'effraie tant qu'elle décide de partir pour un long voyage. Alors le baron, en gage de sa flamme, lui offre le bijou qu'il rapporte de son pays. Et Madame de, très étonnée, reçoit les deux cœurs de brillants et part en voyage. Lorsqu'elle revient, elle aime toujours le baron, et désirant lui donner une preuve de sa tendresse, elle porte au cours d'un bal les fameuses boucles d'oreilles et qu'elle dit avoir retrouvées. Monsieur de s'étonne et puis se rappelle que le diplomate est passé par la ville où réside son amie étrangère. Il comprend le mystérieux retour des bijoux et interdit à sa femme de les porter. Et les boucles d'oreilles de la petite Madame de deviendront lourdes, si lourdes, que ni Monsieur de ni le diplomate ne voudront s'en charger et qu'ils se battront en duel. Et pendant le duel, le cœur de la jolie Madame de deviendra lourd, si lourd, qu'il se brisera d'une émotion trop forte pour lui, trop forte pour deux boucles d'oreilles en forme de cœur.
On a beaucoup dit, Max Ophuls, que le livre de Louise de Villemorin, Madame de, évoquait Madame de Lafayette et la princesse de Clèves. Comment avez-vous procédé pour traduire en images ce climat essentiellement psychologique, enfin, ce feu coulé dans de la glace?
Dans ce roman de Louise de Villemorin, donc je suis tombé amoureux, j'ai trouvé un accessoire. Ce sont des bijoux, des cœurs de diamants. Ces bijoux font un chemin à travers la vie de Madame de. Ces bijoux étaient le cadeau de mariage de son mari et ces bijoux sont devenus un jour, par les circonstances, un cadeau de son amant. Ces bijoux qu'elle a eus comme un cadeau d'un mariage conventionnel et qui ont accompagné sa petite vie sans événements frivoles, se transforment pendant ce drame dans ce roman dans un symbole presque religieux. Ça veut dire, il y a un chemin d'une boîte de bijoux jusqu'à devant l'autel à l'église quand elle est morte.
Est-ce que je puis vous demander à présent de présenter aux auditeurs des avant-premières une scène extraite de votre film et de la situer?
Cette scène se joue au milieu du drame quand Madame de est tombée amoureuse pour la première fois dans sa vie, sincèrement amoureuse, parce qu'elle jouait avec des hommes. Elle est tombée amoureuse, un peu dépassée par ce sentiment. elle lutte contre ce sentiment, et la seule fuite, c'est pour elle un voyage, hein, une séparation de son mari, on ne sait pas encore pour quel temps. Et elle trouve le courage de dire ça au mari seulement dans leur chambre, la nuit. Cette scène qui les sépare, pas seulement par un voyage, mais qui va les séparer de sentiments, elle est jouée par Daniel Darieux et Charles Boyer.
Je veux partir. Faut que je me soigne. Je veux partir.
Vous craignez que cette faiblesse que vous avez au cœur ne vous joue un mauvais tour. Voulez-vous que nous ayons une conversation sérieuse? Je sais que nous n'en avons ni l'un ni l'autre l'habitude, mais j'espère que nous nous en tirerons. Vous savez, je vous suis très reconnaissant de vouloir partir. Bien entendu. C'est une idée comme seule peut en avoir une femme de votre qualité. Mais ce n'est pas une bonne idée. Vous n'êtes pas aussi menacé que vous le croyez. Moi non plus, d'ailleurs. Je vais vous confier un secret. Notre bonheur conjugal est à notre image. Ce n'est que superficiellement qu'il est superficiel. Nous avons joué avec le feu. Moi surtout. Mais votre désir de partir prouve que ma confiance en vous était justifiée. Vous resterez à Paris.
Non, André, je vous en prie.
Vous traversez des moments difficiles. Eh bien, nous les traverserons ensemble. Napoléon n'a eu tort que deux fois dans sa vie, à Waterloo, et quand il a dit qu'en amour, la seule victoire, c'était la fuite. Il faut braver la persévérance. Vous le pouvez. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous êtes fiers. Je vous respecte. Je vous admire. Et je vous aime.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois le 10 mars 1952 et le 10 juin 1953.